Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, je vais donc reprendre par un résumé de l'exposé de la semaine dernière. Nous avions tenté la semaine dernière, si vous vous rappelez, de pénétrer tant soit peu à l'intérieur de l'histoire de la transmission orale de l'Avesta. Et nous avions ainsi pu établir que l'Avesta lui-même, et même uniquement le grand récitatif du Yasna, témoignait de trois rassemblements textuels particuliers. Nous en avons fait la critique, hein, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vous rappellerai qu'il y a le témoignage d'abord du Yasna 1, de la Nivide, aussi si l'on veut éviter les mentions A et B qui pourrait donner l'impression que nous voulons établir une chronologie entre ces différents corpus, nous pourrions parler d'un corpus N, corpus Nivit, attesté dans le Yasna 1 et ses répétitions. Un second corpus, Nivit aussi, mais dans un texte Hadokt de la Nivit, le Visprit 1, donc NH, corpus Nivit Hadokt, qui se distingue du précédent par un trait très remarquable, hein, c'est-à-dire que ce texte témoigne du fait que l'Avesta ancien est édité sous une forme né varietur. C'est l'Avesta ancien que nous possédons. Et on peut prendre ce témoignage au pied de la lettre parce qu'il est corroboré par le Videvda 10, avestique lui aussi, qui nous renseigne, lui, sur les premières strophes et les dernières strophes de chaque gatha. Donc, nous avons affaire à un corpus fixé. Peut-être aussi dans le corpus N, peut-être, mais ça, nous n'en savons rien. Donc, c'est l'édition de l'Avesta ancien. L'édition de l'Avesta ancien est achevée dans le corpus NH. Enfin, le Yasna, le texte que nous possédons, et que j'appelle le récitatif de la liturgie longue, est supposé par le Yasna 16. Et ce rassemblement textuel implique que le long récitatif est caractérisé par l'expulsion des yashts. Les corpus N et corpus NH comportaient des yashts. Je vous rappelle la définition d'un yasht, je crois que tout le monde serait d'accord avec moi à ce sujet. Panaïno l'a établi il y a déjà une quinzaine d'années. Les yashts sont des textes sacrificiels aux dieux autres qu'Ahura Mazda. Il faut prendre le mot yasht sacrifice au sens très terre à terre. Un yasna, c'est très exactement dire yasamaïdé. Hein, c'est dire yasamaïdé. Nous sacrifions. Il y a une équivalence parfaite entre la parole et la désignation du fait rituel. Et tous les yashts, en principe, vous savez qu'il y a bien sûr des exceptions, on va d'ailleurs en dire un mot, tous les yashts se présentent de la manière suivante, hein, un texte qui est cadré de manière récurrente par l'apparition d'une formule en yasamaïdé appliquée à la divinité titulaire. Donc ces textes-là ne font plus partie de la sélection de textes voués à servir de longs récitatifs. Bien, trois corpus, n'est-ce pas? Trois corpus que nous, dont le Yasna témoigne. À quoi cela correspond-il? Eh bien, il est évident que cette sélection de textes correspond à un souci liturgique. Il s'agit de mettre sur pied ce que l'Avesta lui-même appelle le long sacrifice, targa, le long sacrifice. Donc, lorsque je parle de liturgie longue, j'ai quelques appuis terminologiques dans l'Avesta lui-même. C'est une opération de type brahmanique, hein, de la même manière que les hymnes du Rig Veda ont été structurés à l'époque brahmanique pour être mis au service de la liturgie, nous avons une opération semblable. Les trois corpus que nous avons sont différents, bien sûr, mais ils ne peuvent pas être adversaires, car tous les trois répondent à la même question. dans le cadre de cette nouvelle liturgie longue, quel statut sacrificiel faut-il réserver aux dieux autres qu'Ahura Mazda ? La réponse du corpus N, c'est-à-dire c'est l'association à un temps limité du sacrifice. Un secteur temporel du sacrifice les associe au grand sacrifice rendu à Ahura Mazda. La réponse du corpus NH, c'est au contraire de faire patronner chaque texte dédicacé à une divinité autre qu'Ahura Mazda par un secteur de la Vesta ancien. Les yashts, dont le corpus NH témoigne, sont placés sous le patronage d'un texte vieil avestique particulier, comme en dépendance. Enfin, dans le yasna que nous possédons, il n'y a plus de texte sacrificiel directement adressé aux dieux autres qu'Ahura Mazda, mais leur nom est énoncé. Leur nom est énoncé dans les litanies, sans texte particulier, mais en litanie. Donc l'association des dieux autres qu'Ahura Mazda au sacrifice est obtenue dans les trois cas. La question, je vais dire théologique, que cette association suppose, reçoit une réponse différente, mais où l'esprit est le même. On ne peut pas mettre ces divinités exactement sur le même pied qu'Ahura Mazda, et cela, justement, je parlais de longs sacrifices, le Yash de 10 à Mitra en témoigne directement, puisque il y a un passage dans le Yash 10 qui est probablement un passage assez tardif, interpolé, où il est clairement spécifié que Mitra ne peut pas recevoir le long sacrifice, le Darga Yasna. Bon, alors, le corpus Yasna, vous parlez de corpus Y, si vous voulez, nous allons parler simplement de Yasna, puisque maintenant nous sommes en terre connue, n'est-ce pas ? Le témoignage du Yasna 16 sur le Yasna, il implique que les choses se sont passées au gré de trois opérations successives. D'abord, c'est une certaine analyse du Panthéon. Il était nécessaire pour que le Yasna que nous possédions se constitue, qu'une certaine analyse du Panthéon mazdéen soit faite. Elle est faite ici. Cette analyse est clairement donnée par le Yasna 16. Nous allons y revenir, c'est ce qui va nous retenir, c'est le sujet de ce jour en quelque sorte. Deuxième opération, c'est que la liste que nous avons dans le Yasna 16 est servie à donner un nom au jour du mois. Cette opération-là est fondatrice de ce qu'on appelle le calendrier zoroastrien, mais c'est très vague, parce que qu'est-ce que ça veut dire zoroastrien, n'est-ce pas ? Oui, mais quel niveau placer ce zoroastrien à l'intérieur des différentes strates de la Vesta, hein, la Vesta ancien, les Yashts, etc. Alors, je préfère être moins précis pour ne pas faire d'évocation et parler de calendrier religieux. C'est-à-dire que ça, l'opération, au moins, elle est certaine. Vu de la Perse, dont nous avions l'ancien calendrier agraire, les jours du mois ou les noms des mois ont été débaptisés, hein, et ont reçu le nom d'une divinité qui correspond grosso modo au panthéon que nous trouvons dans l'Avesta récent. Je vous dis tout de suite qu'on ne va pas s'attarder à ça. Vous savez, les principes selon lesquels les divinités titulaires des jours du mois ont été sélectionnées, nous n'en savons rien, personne n'en sait rien. C'est un problème qui est certainement dehors de toute atteinte. Hein ? Pourquoi certaines divinités n'ont-elles pas reçu leur jour ? Pourquoi a-t-on sélectionné telle divinité plutôt que telle autre ? C'est une opération que sur laquelle, évidemment, nous ne pouvons même pas spéculer, parce que ça ne signifiait pas que les divinités non retenues tombaient en désuétude. Hein ? Les litanies atypiques, justement, dont nous parlions la dernière fois, contiennent, sont parsemés parfois de fragments de yasht, formule en yazamaïdé, qui leur sont consacrés, hein, ce qui prouve qu'elles avaient un culte. Elles avaient un culte de type yasht. Mais elles n'ont pas été appelées à donner leur nom au jour du mois. La troisième opération, c'est de constituer un corpus liturgique de sacrifices quotidiens, correspondant chacun à un jour particulier du mois. Bien entendu, ce sacrifice était celui de la divinité titulaire. Et on voit que par cette troisième opération, nous nous trouvons réellement à la source des deux anthologies qui composent l'Avesta Ausgabe, l'Avesta édité par Geltner. C'est-à-dire, nous avons le Yasna, expurgé des Yajt, forme le récitatif de la liturgie longue dont je vous parlais, et la constitution du corpus des sacrifices quotidiens, des Yajt, donne celui, naturellement, l'anthologie des liturgies brèves, qui sera plus tard probablement élargie de certains rites saisonniers ou d'autres choses de cette sorte. Voilà. Je vous faisais aussi remarquer que nous ne pouvons pas faire d'histoire. Nous ne pouvons pas dire tel corpus, et le corpus N est plus ancien que le corpus NH. Nous ne pouvons même pas faire de chronologie relative pour les deux premiers corpus. Tout ce que nous savons, c'est que le dernier corpus, le Yasna, est le dernier, puisque c'est celui que nous possédons. Et il y a tout de même une bribe d'histoire que nous pouvons retenir. C'est que l'articulation de cette opération autour du calendrier nous offre un ancrage historique, parce que nous pouvons quasiment la dater. N'ayons pas les données, n'est-ce pas, qui nous permettent. En Perse achéménide, a-t-on renoncé au vieux calendrier agraire pour adopter le calendrier religieux? La question qu'on peut se poser, qui a été débattue, qui est très technique, que je ne comprends pas bien, parce qu'elle fait intervenir des éléments mathématiques qui m'échappent. Nous devons retenir deux dates. Nous devons seulement retenir deux dates. C'est que les dernières attestations de l'ancien calendrier agraire nous sont fournies par les tablettes de la chancellerie achéménide de Persépolis en 459 avant notre ère. Ce sont les dernières attestations du vieux calendrier agraire. Quant aux premières attestations du calendrier religieux, nous savons aujourd'hui, c'est très récent, il y a deux ans seulement, que ce calendrier était en tout cas d'usage en 327 avant notre ère. 327 parce que ce sont de nouveaux documents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez présent, il y a deux ou trois ans, nous avions eu le privilège de... avant publication, la publication n'est toujours pas acquise, d'ailleurs nous n'avons que le résumé de ces conférences, nous avions eu le privilège d'entendre Shaul Shaked, qui éditait des textes araméens orientaux, de l'Iran oriental, qui doivent être datés environ de la conquête d'Alexandre. C'est la raison pour laquelle on doit penser que ces documents ne sont pas ultérieurs à l'an 327. Or, les jours du mois, n'est-ce pas, le nom divin des jours du mois est attesté dans ces documents. Si je vous avais parlé de cela il y a trois ans, je vous aurais dit que c'était en 269. Vous voyez que nous avons gagné 70 ans, hein, certainement dans le... Alors, comment prendre cela, vous savez, donc c'est une opération achéménide. Hein, le changement de calendrier est une opération achéménide, on ne peut pas le nier. Très peu de gens l'ont nié, très peu. L'entente n'est pas faite sur les spécialistes quant à savoir quand le calendrier a été introduit. Car vous voyez bien que 459, c'est une date relative. C'est une date relative parce que l'ancien calendrier a pu rester en usage, en concurrence avec le nouveau pendant un certain temps. Et de fait, sans pointer une année précise, la plupart des spécialistes qui se sont interrogés sur cette question du remplacement de calendrier se sont prononcés pour le règne de Xerxès. Ça signifie tout de même une vingtaine d'années, peut-être, avant 459. Mais vous voyez aussi que la main des achéménides doit être sensible dans les sélections de textes que nous avons. L'élaboration d'un long sacrifice correspond probablement à la mise au point de cérémonies relativement fastueuses. Ça ne se comprend pas autrement. Elles ont pu être fluctuantes, elles ont pu changer, bien sûr, mais voilà à quoi renvoie notre corpus. Alors, l'autre question qui nous donnerait aussi un petit élément de datation, est-ce que le Yasna comme tel, ce que nous appelons le Yasna, est-ce que ce corpus de texte a-t-il reçu son nom dans l'Avesta lui-même? Car le mot Yasna, c'est encore un de ces mots que la science, c'est assez fréquent dans notre discipline, c'est curieux, mais c'est encore un mot que l'on emploie par malentendu. En réalité, le nom du yasna. Le yasna ne porte pas de nom. Lorsque Anquetil du Perron a relevé que les Parsis appelaient ce livre Igisni. C'est du Gujarati, n'est-ce pas ? C'est une coloration Gujarati, ce qui est la langue véhiculaire des Parsis de Bombay. Mais plus tard, Burnouf, vers 1832, a reconnu que ce terme devait représenter le mot yasna, qui est la variante avestique de l'indien yachnya, le sacrifice. Donc, le nom de yasna a été donné à notre livre par Burnouf, en réalité. Il n'a pas tort, n'est-ce pas ? On peut retracer l'histoire à travers le moyen perse de Izichni, on a retrouvé le mot yazich, ou le mot yasne lui-même. Donc, Burnouf avait très certainement raison. Mais le tout est de savoir si ce nom a été donné à ce livre-là à l'époque avestique elle-même. Bref, est-ce que l'Avesta parle lui-même du yasna ? Eh bien, je ne sais pas. Nous avons deux indications, celle que je viens de vous donner, ce fameux long yasna que ne peut recevoir Mitra. S'agit-il de ce livre ou pas ? Ou s'agit-il d'une autre cérémonie ? D'une cérémonie composée textuellement d'une autre manière. Je n'en sais rien. Une autre chose aussi, c'est qu'un corpus textuel appelé Yasna est mentionné par le Nirangistan, avestique. C'est un livre de prescription de dispositions rituelles dont nous ne possédons que des fragments et qui n'ont pas été repris dans l'édition de Geltner, c'est une collection de ce qu'on appelle les nirang, c'est-à-dire de dispositions rituelles. Or, le Nirangistan fait bien mention de la cérémonie appelée yasna, de la récitation d'un texte appelé yasna. Je serais enclin à penser qu'il s'agit de notre texte. Je serais enclin à le penser. Mais Madame Hinz ne le pense pas et je ne vois pas d'argument qui me permettrait de la réfuter, d'imposer mon hypothèse plutôt que la sienne. Almut Hinz pense qu'il s'agit très exclusivement du Yasna Haptankaiti. C'est un peu étonnant que le Niran, ça m'étonne un peu que le Nirangistan, n'est-ce pas, se préoccupe d'une récitation séparée du Yasna Haptankaiti. Alors que le Yasna Haptankaiti n'est pas un texte qui forme une liturgie à soi seul, sauf sans doute à l'époque ancienne. Mais vous voyez le désaccord, et je n'ai pas d'argument décisif. Il est possible, c'est ça qu'il faut, ce que nous devons retenir, il est possible que l'Avesta lui-même parle de sa partie constitutive appelée Yasna. C'est une possibilité. Mais de toute manière, ne le ferait-il pas que les quelques éléments de chronologie relatifs que nous avons tout de même pu, ces quelques lambeaux que nous avons tout de même pu restituer, nous permettent tout de même de considérer que l'opération de sélection textuelle du Yasna est ancienne. Elle est relativement ancienne. Ce n'est pas une œuvre de l'époque sassanide. Ce n'est pas une œuvre sans doute non plus de l'époque arsacide. La liaison évidente de cette opération avec le calendrier nous oblige à penser aux Achéménides, au contraire, ce qui est ici aussi évidemment un argument, non pas linguistique, mais philologique, qui nous interdit de placer l'Avesta ancien au VIe siècle avant notre ère. C'est une impossibilité philologique, absolue. L'Avesta ancien doit être beaucoup plus vieux que ça. Bien, alors... nous allons donc désormais, ce qui va retenir notre attention désormais, ce sera l'analyse du panthéon qui est faite par le Yasna 16. Eh bien, ce panthéon consiste à regrouper 6 allégories qui sont destinées, avec Ahura Mazda, la première d'entre elles, la 7e, mais la première, à donner leur nom au jour de la première semaine. Ils donneront leur nom à la première semaine de 7 jours. Dans la structure du calendrier, comme le texte permet de le voir, c'est 2 semaines de 7 jours suivies de 2 semaines de 8 jours. Non, mais la première semaine comporte 7 jours, et ces jours reçoivent le nom de 6 allégories. Ce sont ces entités abstraites que, toujours dans notre discipline, il est traditionnel d'appeler Amesha Spenta. Amesha, indien Amurta, immortel, et spenta, étymologie très vague, sens aussi pas très bien assuré, on traduit un peu conventionnellement par bienfaisant, hein, bienfaisant ou bénéfique. Je sais que Chervœux, par exemple, préfère invigorant ou quelque chose comme cela, mais bon, nous ne sommes pas très loin. On les appelle Amesha Spenta, et pourtant, là encore, l'appellation est impropre. Je vous conseille peut-être, de lire, voir Boyce, c'est Mary Boyce qui l'a fait remarquer la première, dans la première histoire, dans le premier volume, pardon, de son histoire du zoroastrisme, en 1975. Elle a dit qu'il y avait quelques malentendus à se servir du terme Amesha Spenta pour désigner ces 6-7 allégories, selon que l'on compte ou non, à Ouar Mazda. Alors, un méchant hasard a voulu que j'ai repris avec vous l'historique de la question des Amesha Spenta il y a, je crois, 2 ans. C'était dans une perspective historique particulière qui était de se poser la question de la manière dont s'était constituée dans l'érudition occidentale l'idée du monothéisme zoroastrien. Je vais refaire très brièvement cet historique, mais d'une autre manière, et sans plus lier la question à celle du monothéisme ou pas. Ce n'est pas cette perspective théologique qui va nous retenir, c'est plutôt de comprendre à la fois l'emploi imprégné de malentendus de Amesha Spenta pour désigner ces entités, et ensuite la manière dont nous devons nous poser la question de la constitution de ce secteur du Panthéon. Car là, il y a des faits nouveaux, et des faits nouveaux depuis 2 ans. Je vous rappelle comment la question dite des Amesha Spenta s'est constituée dans notre discipline. C'est un bon petit rappel. C'est le même paysage qu'il y a 2 ans, mais nous allons l'observer d'une autre fenêtre. On va changer de place. En 1862, c'est l'étude fondatrice de notre discipline, ce sont les essais de Martin Haug, n'est-ce pas ? Haug se fait cette conception des Amesha Spenta. Pour lui, c'est les noms de ces... ce sont les conseillers d'Ahura Mazda. Et il pense qu'à une certaine époque de l'histoire du mazdéisme avestique, un certain nombre d'allégories abstraites qui, à l'origine, dans les gathas, à l'époque on ne travaille pas avec l'Avesta ancien, on travaille seulement avec les gathas, hein, n'oublions pas, considérés comme la seule partie de l'Avesta ancien. À l'origine, ces termes auraient désigné les bienfaits dont Ahura Mazda pouvait distribuer à ses fidèles. Et dans une sorte d'évolution, n'est-ce pas, un peu métaphorique, mais calquée sur la cour des rois humains, hein, on voit Ahura Mazda s'installer progressivement au milieu, lui aussi, d'une cour de conseillers, qui seraient ces 6 entités. Pour Haug, en 1862, dans l'essai fondateur de notre discipline, il ne s'agit pas d'une innovation mazdéenne. C'est au contraire le fruit d'une évolution relativement tardive de l'histoire du mazdéisme. L'Avesta récent en porte le témoignage. Il n'y a pas de cela dans l'Avesta ancien. Dès lors, la liste des Amesha Spenta, il serait tout de même bon que je la rende afin de pouvoir mieux... Je donne l'ordre canonique du Yasnases. Pohumana, la bonne pensée, entité neutre, Asha, l'ordonnancement du monde, entité neutre, le Kshatra, la capacité, entité neutre, ensuite 3 unités féminines, Armaïti, la pensée adéquate, il faut comprendre, Aram, Mati, avec une de ces graphies que Pirard a baptisé d'immotivé. Hein, effectivement, on n'arrive pas à rendre compte de la raison pour laquelle, dans tout l'Avesta ancien, n'est-ce pas, le nom de cette entité possède cet allon non non original et pourquoi le second A, au contraire, a été écrasé. Ensuite, Horvatat, entité féminine donc, Horvatat et Amurtat, immobilité, immortalité. Pardon. Immortalité, ce sont sept entités. Or, le point de vue de Hauck ne devait pas s'imposer. Il a été très vite invalidé. Il était invalidé dès les années 70, 1870. Je vous rappelle le fait essentiel de ces années, c'est l'école néo-grammairienne de l'Université de Leipzig. C'est la première fois que les comparatistes, c'est là que les comparatistes prennent conscience de l'existence des lois phonétiques. Ça représente un grand progrès, car on ne peut plus faire de la grammaire comparée en se fondant à de vagues apparences. Il faut la définir par des lois. Ça représente évidemment un immense progrès de la pratique linguistique et grammaticale. De là, la sensibilité grammairienne nouvelle va s'appliquer au texte de l'Avesta ancien. Un néo-grammairien de premier plan, ils étaient très jeunes, c'est pour cela qu'on les a appelés, ce que nous traduisons par néo-grammairien traduit en réalité autre chose. Les Allemands les appellent Junggrammatiker, ce qui veut dire jeune grammairien, hein, parce qu'il s'agissait d'hommes très jeunes. L'un d'entre eux, Heinrich Hübschmann, qui sera le maître de Bartholomé, fait observer en traitant le Jasna 30 en 1872 qu'il y a quelque chose de très curieux dans l'emploi des noms de la liste que nous trouvons canonique que nous ne trouvons que dans l'Avesta récent. C'est que ces noms sont bien sûr attestés dans l'Avesta ancien et ils sont utilisé avec une prédilection particulière au cas instrumental. Au cas instrumental. C'est effectivement frappant. Cela paraît symptomatique. L'instrumental, pourquoi ? Il y a donc quelque chose de fondamental dans la conception du Panthéon qui se manifesterait dès l'Egata elle-même. C'est l'emploi terriblement fréquent, très fréquent, proche de la rumination même, du nom de ces entités, et la fréquence de leur utilisation, absolument insolite, si l'on se place dans la perspective de la comparaison avec les textes védiques, ben, cette fréquence absolument insolite de l'instrumental. Cette perspective, je pourrais en faire tout de suite la critique, il faut, je n'y reviendrai pas, mais elle n'est pas totalement exact. La haute fréquence de l'emploi de ces noms dans les Gatha n'est vraie que pour les quatre premières. Les deux dernières ne sont pas si fréquentes que cela. Elles sont même, le nom vu à l'échelle des Gatha est utilisé, effectivement, revient un certain nombre de fois, mais sans insistance particulière, alors qu'effectivement, ici, la fréquence est véritablement très haute. On peut estimer, par exemple, que les noms de Vohumana ou d'Acha, pour donner une échelle de grandeur, apparaissent dans une strophe sur deux. Apparaissent dans une strophe sur deux, ce qui est énorme. La fréquence de l'emploi à l'instrumental, il le faut encore nuancer. En réalité, cet emploi instrumental n'est véritablement fréquent de manière inusuelle que pour les trois premières, c'est-à-dire uniquement pour les trois entités neutres. Donc la bonne pensée, Vohumana, l'ordre du monde, Acha, et le pouvoir, Kshatra. Ce sont l'instrumental ne peut faire argument que pour ces trois-là, mais vous voyez la manière dont c'est ici que se forme le malentendu, peut-être. N'est-ce pas ici que se forme le malentendu? Il semble qu'on est procédé par extension et considérer que ce que nous suggéraient les emplois à l'instrumental valait pour l'ensemble du groupe formé dans l'Avesta récent par les sept entités. Il y a eu une extension abusive. C'est pas bon. Elle est psychologiquement compréhensible, et d'une certaine manière, même si on le sait, ça n'est pas d'une gravité exceptionnelle. Mais vous allez voir que la situation est plus étrange que cela. Elle va se manifester progressivement. Très peu de temps après Hübschmann, Darmstädter, n'est-ce pas, fait l'observation que en 1877, fait l'observation que les sept Ameshaspanta, les sept immortels bienfaisants, doivent correspondre à quelque chose de très ancien, qui est même antérieur au Gata elle-même. C'est un trait pour Dharmastéter qui est à ce moment-là plus comparatiste et indianiste qu'il le sera 20 ans plus tard. Il ne fait pas de doute que c'est un trait hérité du passé indo-iranien et que l'on doit mettre en équation les Ameshaspanta des Gata et les Aditya indiens, les sept fils d'Aditi, dont les dieux Varuna et Mitra sont les plus connus, les plus notoires, ceux qui reçoivent les hymnes du Rig Veda. C'est une étrange idée, hein, c'est une étrange idée car Dharmastéter fait la réflexion lui-même que les noms ne correspondent pas. Aucun nom ne correspond. C'est les allégories que nous avons dans les Gata ou qui vont former le groupe des sept de l'Avesta récent sont certes des noms hérités. Tous ces mots fonctionnent, n'est-ce pas, c'est des mots attestés dans le Rig Veda. Ils fonctionnent dans le Rig Veda, mais ils ne désignent pas des personnes divines, même si les abstractions qu'ils expriment ont une certaine valeur sacrée, bien entendu. Mais ce ne sont pas des divinités, ce ne sont pas des dieux. Or, les Adityas indiens ne portent pas ces noms-là. Les Adityas ne portent pas ces noms-là. Pourtant, cette doctrine-là aura un certain succès. Elle sera reprise dans ce qui est le livre historique, n'est-ce pas, vraiment la clé de voûte des études sur les Ameshaspanta pendant plusieurs dizaines d'années. C'est le livre sur dits Ameshaspanta de l'indianiste viennois Bernhard Geiger, pas confondre avec Wilhelm Geiger, Bernhard Geiger, qui en 1916. Et Geiger, indianiste lui aussi, défendra cette théorie de l'équivalence avec les Adityas. C'est une hypothèse qui survivra. C'est pas, je crois que Paul Thiem, le grand indianiste allemand du XXe siècle, l'a défendu jusqu'à la fin de sa vie. Et a très certainement, pendant un certain temps, son acquaintance étant réelle avec l'école d'Erlangen, certainement que des gens comme Karl Hoffmann ou Johann Arten, à un certain moment de leur carrière, que je n'ai pas connu et qui n'a pas laissé de traces décrites, ont certainement eu cette opinion avant les faits dont nous allons parler. Bon. Rappelez-vous ensuite les trois autres dates clés qui vont se suivre dans les tentatives d'élucidation du groupe des six immortels bienfaisants. 1929, une analyse des Gata par l'américaine Maria Wilkins Smith. Maria Wilkins Smith fait un livre, se fonde bien sûr sur les valeurs de l'instrumental et propose une interprétation qui aura un certain succès, avec laquelle elle a baptisé elle-même aspect théorie. Il s'agit de considérer que l'instrumental, qui exprime le moyen ou l'accompagnement, que ces entités utilisées ainsi composent des aspects différents de la personnalité d'Awa Mazda. Ce ne sont pas des divinités, dit Maria Wilkins Smith, ce sont des aspects d'Awa Mazda. Tout ça en appellation d'aspect théorie. Je ne vais pas juger sur le fond ici, n'est-ce pas ? Je ne vais pas juger cela sur le fond. Mais vous voyez qu'une telle analyse ne se trouve légèrement en porte-à-faux avec la théorie des Adityas. Avec la théorie des Adityas. Car les Adityas indiens sont des divinités à part entière. Il y a ici une légère déviation par rapport à la vieille théorie de Dharmastéter et Geiger. L'année suivante, Lommel, dans Die Religion de Zarathustra, en 1930, accorde une certaine importance, une importance décisive, à des analyses moyen-perses qui mettent les entités en rapport avec les éléments naturels, avec les divers éléments de l'atmosphère. Je vous rappelle, hein, respectivement, Vohumana, la vache, Asha, le feu, Kshatra, le métal, Armaiti, la terre, Urvatat, les plantes, les eaux, pardon, et Amurtat, les plantes. Je ne ferai pas de commentaire sur le fond non plus. Donc, en quelque sorte, les divinités qui incarnent nos abstractions sont des sortes de relais, deviennent une sorte de relais qu'Ahura Mazda a disposé envers les différents secteurs de sa création. Ce sont des relais entre lui et, certains secteurs de sa création. Mais cela n'est pas inscrit dans l'Avesta. Nous allons d'ailleurs en dire un petit mot rapidement. Dans l'Avesta, en réalité, cela a été vérifié d'ailleurs. Je vais en dire un mot, je le maintiens. 1945, Dumézil, naissance d'archange. Vous connaissez la thèse de Dumézil, 1945. Elle est celle que le monothéisme zoroastrien des Gathas ne disposait plus, puisqu'il n'y a plus qu'une seule personne divine, d'une manière adéquate d'exprimer les trois fonctions. C'est la thèse de, dès lors qu'il y a un Dieu unique, on ne peut pas incarner une fonction au détriment des autres. Dès lors, dit-il, Zarathoustra a recréé le cadre trop vivant, n'est-ce pas, dans l'idéologie des Iraniens de cette époque, des trois fonctions d'une autre manière, en distribuant ses fonctions à ses aspects, en réalité, n'est-ce pas, à ses différents aspects, ou à ses relais sur la, à ses relais sur, vis-à-vis des secteurs de la création. Ainsi, Vohumana et Asha seraient respectivement, incarneraient la fonction souveraine, Vohumana sous sa forme Mitra, le souverain bienveillant, Asha sous sa forme Varuna, le souverain sombre, Kshatra incarnerait la deuxième fonction, Urvatat et Amurtat, la troisième. Quant à Armaiti, qui en 1945 faisait problème à Dumézil, il proposera plus tard, je crois à partir de 1949, d'y voir la divinité féminine qui résume toutes les fonctions, comme dans le Draupadi, dans le Mahabharata. Voilà. Alors, je voudrais faire remarquer que ces trois conceptions du corps des Amushaspanta ont quelque chose en commun. La liturgie, la théologie des Amushaspanta appartient au niveau le plus ancien du mazdéisme avestique. Et puisque les savants dont nous venons de donner le nom, Smith, Lommel ou Dumézil, sont des adeptes du modèle historique, il ne fait pas de doute pour eux que c'est une création religieuse de Zarathoustra lui-même. C'est certainement la base unanime de ces trois théories. Elles sont cumulables d'ailleurs, elles sont cumulables. Dumézil, par exemple, pense bien que les entités sont des aspects. Il pense qu'ils incarnent d'une certaine manière le rapport avec les éléments et aussi les trois fonctions. Ce sont des interprétations qui ne se contrarient pas mutuellement. Et c'est un intérêt aussi historique, n'est-ce pas, de la traduction des Gathas par Duchesne d'Yvelines en 1948, de voir fonctionner le cumul de ces interprétations dans une traduction des Gathas. Car la traduction des Gathas de Duchesne d'Yvelines est en effet fondée sur l'interprétation de Maria Wilkins Smith, admet l'interprétation élémentaire de Lommel et est très certainement entièrement acquise à l'analyse trifonctionnelle. C'est un des intérêts historiques de cette traduction, outre le fait que c'est la dernière, donc la meilleure, des traductions qui se situent dans la ligne de Bartholomé, mais aussi de voir fonctionner ce qui a été à une certaine époque, grosso modo autour de la guerre, autour de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, de voir fonctionner la conception globale que la science pouvait se faire du corps des Amushaspanta. Et d'ailleurs, après la traduction de Jacques Duchesne d'Yvelines, il ne sera plus tellement question des Amushaspenta. Il semblerait, il y aura naturellement des désaccords sur certaines choses, surtout sur la théorie trifonctionnelle. La théorie trifonctionnelle, elle, n'est pas compatible avec la théorie des Adityas, hein, puisque vous savez que pour Dumézil, les Adityas sont des dieux souverains. Tous les sept, ils incarnent la première fonction. Il y a donc là une incompatibilité entre la théorie Amushaspensa Aditya et celle de la trifonctionnalité. Bah, dès lors, les quelques désaccords porteront naturellement là-dessus. Faut-il interpréter cette liturgie des Amushaspenta dans le cadre hérité et revu par Zarathoustra d'un groupe de sept divinités qui existaient à l'époque indo-iranienne, ou au contraire, faut-il y voir une innovation dictée par le souci de recréer d'une manière ou d'une autre l'idéologie des trois fonctions. Bien, voilà, je vous conseille aussi de lire, pour ceux d'entre vous, dans la religion de l'Iran ancien de Duchesne d'Imain, les 10-12 pages consacrées aux Amushaspenta. Vous comprendrez en lisant cela qu'il fallait tout de même se méfier. Il fallait se méfier de cette interprétation, car elle n'est effectivement pas... on voit à quelles complications et à quels étranges détours de la pensée on doit arriver. Or, le fait essentiel, j'en ai fait une analyse approfondie, je ne la ferai pas cette fois-ci, c'est le livre que Johanna Narten, l'élève de Karl Hoffmann, a publié, « Die Amushaspenta im Avesta », a publié en 1982. Or, tout le système traditionnel, celui que Mary Boyce jugeait miné par le malentendu, du groupe des Amushaspenta est profondément revu. Il est ébranlé, fondamentalement. Pour Narten, le système des sept Amushaspenta, ce qu'elle appelle la liste canonique, n'existe pas dans les gathas, est absent des gathas. Il n'y a pas d'Amushaspenta gathique. D'ailleurs, ni le terme Amusha, ni le terme Spenta, ne sont appliqués. Alors, Amushaspenta n'est pas du tout attesté dans les gathas. Spenta l'est, mais il est dit exclusivement d'Ahura Mazda et d'un mystérieux homme, l'homme, Nar, qui est Spenta, et qui est peut-être une désignation du feu rituel. Mais il n'y a pas de corpus de divinité, il n'y a pas de corps de divinité qui soit nommé Amushaspenta. Le titre n'existe pas. Enfin, les entités, les abstractions gathiques divinisées ne se limitent pas à celles qui figurent au tableau. Elles ne se limitent pas à celles-là seulement. Il y en a de nombreuses autres. Elles sont nombreuses. Elles sont ponctuelles aussi, en ce sens que toute abstraction peut, un moment ou l'autre, être personnalisée, être personnifiée, devenir allégorie. C'est une pratique évidemment rhétorique de la rhétorique védique également. En quelque sorte, nous observons, nous voyons fonctionner une rhétorique, une hymnologie de type indo-iranien qui est libre à tout moment de produire des allégories divines. Mais il n'y a pas d'heptate privilégié et il n'y a surtout pas de catégorie d'allégories qui porte le titre d'Amushaspenta. Dans le Yasna Haptankaiti, c'est-à-dire dans le versant en prose de l'Avesta ancien, les entités, les nombreuses entités qui font l'objet du Yasamaïdé, car c'est un Yasna, le Yasna Haptankaiti, hein, c'est un Yasna, on dit Yasamaïdé à un certain nombre d'entités, reçoivent, lorsque la litanie est clôturée, à titre récapitulatif, la qualification dans l'ordre inverse de Spenta et Amusha. Mais visiblement, l'emploi qui en est fait, cet emploi unique, montre très clairement qu'il ne s'agit pas d'attribuer à ces divinités un titre. Il s'agit d'énoncer simplement leurs attributs, deux de leurs attributs, le fait qu'elles sont bienfaisantes et le fait qu'elles sont immortelles. Hein? Mais quelque chose se précise, comme le montre Narten. On évolue dans le Yasna Haptankaiti. D'abord, la liste des entités, elle est très ouverte, elle est très longue, mais elle est close. Elle est close, d'une certaine manière. Entités nombreuses, mais en nombre défini. Et puis, on voit apparaître cette qualification qui, pourra devenir quelque chose d'autre, non plus des attributs, mais un titre réellement. Dès lors, la conclusion s'impose, la sélection des 7 entités, ou des 6, hein, selon que l'on parle de la liste avec Ahura Mazda ou non, la sélection des 6 entités et le titre d'Ameshaspensa qui est accordé à ces divinités, à ces entités sélectionnées, sont des réalités exclusivement de l'Avesta récent. Vous savez que j'ai beaucoup discuté avec Narten. Je ne vais pas refaire ici notre discussion parce que ce n'est pas la perspective qui nous intéresse. J'ai discuté avec Narten parce que certaines choses, j'étais en désaccord sur des points mineurs, à savoir la manière dont sa conception de l'instrumental. Sa conception de l'instrumental me paraissait exagérée. Narten suppose que l'instrumental a une valeur commitative, ce qui est juste, commitative, c'est-à-dire avec, accompagné d'eux. Hein. Ce qui est juste, c'est une catégorie bien répertoriée de la morphologie, de la syntaxe des cas en indo-iranien, c'est vrai. La fréquence reste malgré tout quelque chose de très curieux et de très particulier. Ensuite, on ne peut pas considérer, bien sûr, que la fonction est toujours nécessairement commutative. La fonction peut répondre peut-être à d'autres critères. Vous voyez aussi où cela nous mène, c'est que la fonction commutative va en personnifiant les entités, en faisant des personnes divines particulières, puisqu'elles viennent ou elles font ceci avec Ahura Mazda. C'est que toutes les abstractions employées à l'instrumental peuvent apparaître comme des entités, puisqu'elles sont actives, puisqu'elles ont leur personnalité propre. Hein. Ça conduit certainement Narten à comptabiliser un trop grand nombre d'entités. C'est cela que j'ai discuté, et essentiellement cela. Mais Narten a ébranlé définitivement la conception que nous avions des Ameshaspenta. D'une certaine façon, on en revient à Haug, les Ameshaspenta, le titre, le rang, la liste, tout cela appartient à l'Avesta récent. Ce n'est pas une création de la théologie de l'Avesta ancien. Bah, certes, leur nom est attesté dans l'Avesta ancien, avec une certaine importance, bien sûr, puisque une strophe sur deux, c'est pas, pour les 3 premières entités environ, c'est beaucoup. C'est quelque chose qui compte, mais le corps ne compte pas. Hein. L'ensemble de divinités, le club divin qui reçoit le nom d'Ameshaspenta. Or cela, je l'accepte entièrement, c'est l'évidence. Narten en a fait une évidence. Mais je voudrais faire remarquer ceci avant d'en venir à une analyse que nous allons faire à partir du Yasna 16, n'est-ce pas ? Je voudrais attirer l'attention sur un fait curieux qui se produit parfois dans nos études. C'est que le livre de Narten, qui bien sûr, entretient véritablement un rapport très étroit avec la découverte des évidences, car ce qu'elle découvre ne peut pas être mis en doute, hein, n'a pas été bien reçu. On n'a pas certainement nié ses conclusions. On l'a critiqué sur des choses parfois assez impalpables. J'ai quelques difficultés à l'exprimer moi-même. Ceux d'entre vous qui voudraient aborder la question de manière un peu professionnelle devraient avoir la curiosité de lire le compte-rendu que Protsoctor Cherveux, que vous connaissiez, est venu ici, si vous, certains d'entre vous s'en souviennent, et qui d'habitude est un savant très clair, très remarquable, très décidé, a publié au sujet de ce livre dans le numéro de 1982, mais paru seulement 83, de la revue Kratilos. C'est tout à fait typique de la réaction qu'a suscité le livre de Narten. Cherveux a exposé les conclusions de Narten sans donner le moindre avis. À aucun moment il ne dit ce qu'il pense de ses conclusions. Hein, à aucun moment. il le fait en résumé extrêmement clair et extrêmement exact de son livre. Et puis, fait remarquer que Nartène aurait tout de même pu faire autrement. Elle aurait pu faire cette analyse d'une manière beaucoup plus convaincante si elle était partie du texte même du Yasna Abdankaiti. Oui, or, Nartène a effectivement publié le Yasna Abdankaiti, le texte du Yasna Abdankaiti, 5 ans plus tard, n'est-ce pas ? Donc, mais sans faire de commentaires sur la liturgie des Amushaspanta. Je ferai remarquer aussi, pour que le fait que c'est assez typique, que Mary Boyce, qui avait souligné le caractère inadéquat de l'appellation Amushaspanta dans son volume, dans l'édition de son premier volume de l'histoire du zoroastrisme, en 1975, dans la réédition de 1992, pourvue de quelques notes où elle donne un sentiment sur certaines hypothèses qui avaient été émises entre la première et la seconde édition, ne dit pas un mot du livre de Nartène. Ne dit pas un mot. Donc le texte de Boyce, le texte de 1975 est reproduit, et certainement, mais les notes ne font pas mention du livre de Nartène. Donc c'est un livre qui n'a pas reçu d'approbation, qui n'a pas reçu de critique non plus, mais dont on ne parle guère, dont on ne parle pas. J'ai eu ce sentiment un peu étrange que beaucoup de personnes, beaucoup de savants, mais ça relève de la conversation privée, il faut bien que j'en fasse état, ne sont pas convaincus par cette évidence, n'est-ce pas ? À ce propos, j'ai entendu dans un colloque s'exprimer en ce sens quelqu'un comme Gernot Windfuhr ou d'autres savants. Alors, j'aimerais, donc en dehors de l'approbation partielle, hein, sauf sur la question de l'instrumental que je lui ai apporté, le livre est un peu un livre oublié, hein, négligé en tout cas, dans une certaine mesure. Il faut dire que c'est compréhensible dans une certaine mesure. C'est compréhensible dans une certaine mesure parce qu'il est terriblement difficile à lire, comme je vous l'ai dit. Mais il y a autre chose. C'est que c'est typiquement un livre de grammairien. C'est un livre de grammairien. Alors, que fait Nartène ? Eh bien, très certainement, elle a rassemblé toutes les attestations possibles des termes Amusha, Spenta, utilisés en combinaison pour désigner les entités. Elle a très certainement relevé toutes les attestations de la liste. Et elle a poursuivi son analyse dans la perspective, justement, que nous avons récusée au début de ces cours. Dans la perspective que l'Avesta que nous possédons est une série de fragments hasardeux et qu'il ne sert à rien de les lire dans l'ordre. Il faut, au contraire, sélectionner les passages selon le problème que l'on entend privilégier. À la question de savoir... par exemple, est-ce qu'il y a une opposition entre les Yasata, les dieux Yasata et les dieux Amushaspanta ? Eh bien, il faut chercher les passages qui traitent de cela. Il ne faut pas lire parce que la conception qu'elle avait à cette époque de l'Avesta n'accordait aucune importance à la structure interne de l'Avesta lui-même. Alors, elle a procédé très exactement, c'est l'impression, n'est-ce pas ? Elle a procédé à la grammairienne. Elle a traité un problème qui est un problème de conception religieuse, qui est un problème... Elle a abordé comme on aborde une étude de faits grammaticaux, hein, sélectionnant soigneusement les traits significatifs, mais sans les assembler. Mais cela, c'est une critique qui ne peut évidemment apparaître que plus tard, lorsque nous nous sommes forgés une conception de l'Avesta un peu différente. Et effectivement, la lecture du Yasna, à cet égard, va nous montrer se développer une liturgie très particulière. Donc, nous en sommes là sur la question des Amushaspanta. Je voudrais vous faire remarquer encore, avant d'en venir à ce que le début du Yasna nous apprend sur la constitution de ce groupe divin particulier, que le yasna 16, je vous le rappelle, suit la zone moyenne avestique. Le terme Ameshaspenta, en tant que titre, est attesté dans la zone vieille avestique. Ce que j'ai appelé la zone des déclarations, la zone moyenne avestique, lorsqu'elle mentionne les dieux, les appelle Ameshaspenta. Elle n'évoque pas d'autres divinités, ne parle pas de Yazata, elle parle uniquement d'Ameshaspenta. On nous parle des Ameshaspenta à la troisième personne du pluriel, on ne mentionne pas leur nom, aucun nom n'est mentionné. Lorsqu'il est question d'une divinité particulière, l'on passe à la deuxième du singulier. On s'adresse à lui à la deuxième du singulier. Mais les deux seules entités de la liste ou de la liste canonique de Yasna 16, c'est Asha et Armaïti. Donc la zone vieille avestique ne fait pas de personnalité. Mais l'impression qu'elle nous laisse, c'est qu'elle l'appelle les dieux Ameshaspenta. C'est le titre divin qu'elle leur réserve. Pas d'autre. Il y a peut-être, avant de terminer cette leçon, une petite chose que je dois vous rappeler. Je suis un peu désolé de ne pas avoir introduit ce petit détail tout de suite, parce qu'il explique dans une certaine mesure nos difficultés à débattre de la titulature. N'oubliez pas que ne faut pas perdre de vue le fait que l'Avestique, tout secteur confondu de l'Avesta, tout texte de toute époque, a une particularité étrange, c'est qu'il n'y a pas de terme générique pour dire Dieu. Il n'y en a pas. Quand l'Inde a Deva, non, puisque Daiva est démonisé. Quand le vieux Perse a Baga, non, ou très très rarement. Baga est attesté, mais avec une évanescence telle que Benveniste a pu écrire qu'il n'existait pas dans l'Avestique. Parce que le terme signifierait autre chose. Donc nous n'avons pas un terme de la plus grande généralité qui soit pour désigner les personnes divines. Ça n'existe pas. Alors nous devons guetter des substituts. Nous guettons des substituts. Ameshaspenta paraît le substitut, effectivement, dans la zone moyenne avestique. C'est le substitut général. Y a-t-il autre chose? Lorsqu'on lit le Yasht de Mitra, on a l'impression que le substitut, c'est Yazata. Il faut que nous efforcions à présent de mettre un peu d'ordre dans cette terminologie vacillante. Il faut essayer de la redresser, de lui mettre un tuteur en quelque sorte, parce que quelque chose ne fonctionne pas bien. Et nous allons le faire en progressant dans la lecture du Yasna. Et vous verrez que ça n'est pas facile et que ça n'est pas très clair non plus. Mais on voit en tout cas se développer, cela c'est très clair et cela aura son importance considérable, on voit se développer une véritable théologie de l'heptade, de la liste canonique des entités. De telle sorte que, n'est-ce pas, les raisons de cette opération théologique, de la constitution de ce corps de divinité, deviennent un peu plus apparentes. Ce sera l'intérêt des leçons qui viendront. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.